19h-20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Bonsoir à toutes et à tous et je souhaite la bienvenue au docteur Laurent Alexandre dans mon émission. Nous sommes dans un salon chez La Pérouse, nous sommes tous les deux 100% humains. Ça ne va peut-être pas durer, on va parler de ça pendant une heure parce que Laurent Alexandre, c'est le grand spécialiste français du transhumanisme qui réfléchit beaucoup sur l'intelligence artificielle et les choses évoluent tellement vite que son nouveau livre actualise toutes ces problématiques avec brio. C'est intitulé « ChatGPT va nous rendre immortels » chez Jean-Claude Lattès. C'est très angoissant. C'est vrai que quand on a lu ce livre, franchement, on se dit que partout, on nous parle de la guerre en Ukraine, de la guerre en Israël, du réchauffement climatique, mais qu'en réalité, la principale menace, elle n'est pas là du tout.
Alors, ce n'est pas une menace, c'est une évolution naturelle. Nous allons fusionner avec l'intelligence artificielle, nous allons rentrer dans une société d'hypercroissance, hyperscience, hypertechnologie, un monde absolument incroyable grâce à l'intelligence artificielle. C'est un changement radical, c'est une mutation. L'homme est en train de faire sa mue. Nous étions une chrysalide et nous devenons papillons grâce à l'intelligence artificielle. C'est un choc social, politique auquel il faut qu'on s'habitue. Hélas, les politiques ne nous y préparent pas parce que les politiques sont très souvent déconnectées des enjeux technologiques.
Là, vous édulcorez beaucoup votre propos parce que dans le livre, vous dites carrément que notre espèce n'a plus que 5 ans à vivre, qu'on va être exterminé par des drones.
Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que nous allons probablement abandonner notre corps. C'est ce dont les dirigeants de Google sont convaincus dans les siècles qui viennent, mais pas dans les 5 années qui viennent. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'intelligence humaine sera dépassée par l'intelligence artificielle avant 2030. Nous sommes en train de vivre notre dépassement.
Donc dans six ans.
Comme le père de l'intelligence artificielle, Geoffrey Hinton, le déclarait dans la presse américaine récemment, nous ne sommes plus l'espèce la plus intelligente sur Terre. Nous sommes la deuxième espèce la plus intelligente derrière l'intelligence artificielle. C'est une transformation anthropologique que nous devons gérer.
Alors, docteur Laurent Alexandre, vous êtes le fondateur de nombreuses start-up, dont Doctissimo, DNA Vision, qui est une des premières entreprises qui proposait le séquençage de l'ADN humain. Vous êtes actionnaire toujours de Selectis avec André Choulika, qui est une grande compagnie spécialisée dans les cellules souches, la reprogrammation génétique. Tout ça est vraiment très, très visionnaire et très passionnant. Ce livre, ChatGPT va nous rendre immortels, en fait, c'est un mélange de deux de vos grands thèmes. C'est-à-dire que vous êtes l'auteur de La mort en 2011, moi qui ai un livre qui m'avait vraiment marqué, qui, en gros, avait pour projet d'euthanasier la mort, de nous rendre éternels. Ça fait rêver. Et puis là, en plus, vous ajoutez tout un essai sur la post-humanité, l'intelligence artificielle.
En réalité,
voilà, vous mélangez tout ce que vous avez déjà.
La technologie peut nous aider à vivre plus longtemps, mais le phénomène le plus important, c'est pas le recul de la mort grâce à la technologie et aux biotechnologies, c'est notre dépassement par l'IA qui est beaucoup plus rapide que prévu. Geoffrey Hinton, toujours, donc l'inventeur des intelligences artificielles modernes, expliquait il y a quelques semaines ce que j'imaginais arriver dans les 200 prochaines années est en train d'arriver en quelques années. Donc effectivement, notre société ne s'est pas préparée à ce tsunami parce qu'elle ne l'a pas vu et parce qu'elle n'imaginait pas que l'intelligence artificielle pouvait progresser aussi vite depuis la naissance de ChatGPT.
Mais vous-même, vous ne l'aviez pas vu car vous commencez votre livre par cette phrase « Je me suis trompé ». Je dois avouer que mes prévisions formulées depuis une quinzaine d'années se sont révélées fausses. J'ai péché par pessimisme. Tout arrive beaucoup plus vite que je ne l'avais prévu. Donc même vous qui vous intéressez de près à ces questions, vous avez été surpris.
Oui, je commence le livre en disant que ce que fait GPT-4 en médecine aujourd'hui, la veille de la sortie de ChatGPT, je n'imaginais pas que ce soit possible avant 2040 ou 2050. J'ai été, comme tout le monde, stupéfait par la croissance extrêmement rapide de la puissance informatique. Il faut qu'on en prenne acte, et il faut que notre société s'adapte, il faut que l'école s'adapte, il faut que la médecine s'adapte. Nous sommes en train de vivre en ce moment notre dépassement, nous médecins, par l'intelligence artificielle. GPT-4 fait des diagnostics mieux que nous médecins dès à présent. Il est clair qu'en 2030, GPT-4 sera supérieur à tous les médecins sur Terre, dans tous les domaines. C'est une blessure narcissique, c'est une transformation du rôle du médecin, bien sûr, et ça nécessite de réorganiser le système de santé, mais aussi les études médicales, ce qu'on n'a pas commencé à faire.
Et alors, ça, c'est pour les médecins. Désolé pour vous, puisque vous l'êtes. Hein, vous êtes docteur en médecine, 11 ans d'études. Puis en plus, vous avez fait HEC, Sciences Po, ELENA. Vous aimez bien les examens, hein, toutes sortes d'examens.
Oh, chacun sa névrose.
Voilà. Bon, alors ça, c'est votre problème. Maintenant, pour les écrivains, est-ce qu'on peut espérer quand même qu'il y aura toujours une subjectivité, un style, une originalité, une imagination?
Alors que ce soit...
Par rapport aux ordinateurs.
Pour ce qui concerne les intellectuels,
merci.
Je pense que les intellectuels doivent essayer de se rendre complémentaires de l'intelligence artificielle, mais ça va être un combat. D'ici 2030-2035, il est clair que les successeurs de GPT-4 écriront de meilleurs romans
que les
humains. J'ai pas dit toi.
Non, mais
que les humains.
Moi, c'est facile.
Que les humains en moyenne. On voit bien à quel point Hollywood est paniqué par l'intelligence artificielle. Sam Altman, le créateur de ChatGPT, est allé faire la tournée d'Hollywood récemment avec les dernières technologies non encore publiques, hein, autour de ChatGPT et autour de Sora. Les pontes d'Hollywood ont été absolument paniquées de la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle pourrait remplacer une partie de la chaîne de valeur d'Hollywood.
Il y a même eu une grève des scénaristes qui a duré 6 mois.
Exactement. Et à la fin, on leur a de façon mensongère promis qu'on utiliserait le moins possible d'intelligence artificielle à Hollywood. Mais bien évidemment, ça ne tiendra pas très longtemps.
Votre premier choix musical, Laurent Alexandre, c'est Jean-Sébastien Bach, le concerto pour violon, hautbois et cordes, qui a été composé à 100% par un être humain.
Thank you.
Je suis toujours avec Laurent Alexandre qui prédit mon dépassement rapide par l'intelligence artificielle dans peu de temps. Je serai sans doute remplacé par une voix un peu plus électronique. Donc, Laurent Alexandre, vous publiez « ChatGPT va nous rendre immortels » chez Lattès. Alors tiens, restons sur ce titre un instant. Vous pensez vraiment que la mort de la mort, l'éternisation de notre corps passe par la fusion avec une machine ?
L'intelligence artificielle et les biotechnologies peuvent nous permettre d'augmenter l'espérance de vie. Quelques siècles. Mais il va être difficile de faire vivre un neurone un milliard d'années. Il y a une limite à la durée de vie biologique.
Je précise que Laurent Alexandre n'a pas bu d'alcool ni pris de drogue.
En revanche, si nous fusionnons avec l'intelligence artificielle, comme les dirigeants de Google le proposent, on peut avoir une durée de vie limitée. Une intelligence numérique peut vivre extrêmement longtemps. Elle peut vivre un milliard d'années, 1 000 milliards d'années, et d'autre part.
Mais il faut remplacer les batteries au lithium.
Oui, mais ça, c'est pas vraiment un problème, sauf pour les Khmer verts et les ayatollahs verts décroissantistes.
Ouh là là, calmez-vous,
Et enfantin. Si on veut conquérir le cosmos, comme Sam Altman, le créateur de ChatGPT, veut le faire, les distances sont énormes. Il y a des voyages qui peuvent durer plus d'un milliard d'années quand on colonise l'univers. On va pas, en tant qu'humain biologique, poireauter dans un vaisseau pendant 1 milliard d'années. On s'emmerderait vraiment très très fort.
Oui,
alors que pour une intelligence artificielle, faire un voyage d'un milliard d'années, ça ne pose absolument aucun problème. Et puis, une intelligence artificielle n'est pas soumise aux mêmes contraintes que nous. Une intelligence artificielle qui circule par ondes radio, elle n'a pas besoin de manger, elle n'a pas besoin de dormir, elle peut faire des très très très, très longs voyages dans le cosmos, ce qui n'est pas le cas d'une intelligence humaine.
Alors vous voyez, chers auditeurs, nous avons affaire à quelqu'un d'assez spécial, qui est un grand médecin, essayiste, très sérieux, et en même temps il parle comme s'il était auteur de science-fiction. Je me demande si au fond votre passion secrète, ça ne serait pas la futurologie ou
oui,
la science-fiction.
Oui, mais je pense que je ne comprends pas qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, la science-fiction devient médecine-réalité, oui. Et que nous sommes en train de changer de monde du fait de la puissance informatique à une vitesse que tes auditeurs ne réalisent pas forcément. Amazon est en train de créer un ordinateur réalisant 400 milliards d'opérations chaque seconde. Nous sommes probablement à 3, 4 ou 5 ans maximum du dépassement de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle l'AGI, hein, c'est-à-dire l'intelligence artificielle générale.
Donc on est dans... Comment on mesure ça ? Comment on sait que l'intelligence est supérieure à nous ? Parce que nous sommes faibles, imparfaits.
Alors déjà,
mais nous avons
avec GPT-4, on a comparé les résultats des humains et les résultats de GPT-4 aux principaux examens américains. L'examen du barreau des principaux États américains, l'uniforme, les examens pour être médecin généraliste, les examens pour être médecin spécialiste, etc., etc. Et GPT-4 écrabouille les humains à ces examens.
Alors, attention, je réponds là parce que on a reçu ici Raphaël Antoven il y a un mois et demi, qui a passé le bac philo contre ChatGPT. Il a eu 20 sur 20 et ChatGPT n'a eu que 11.
Donc, mais
vous dites qu'on va être dépassé.
Il faut arrêter ces conneries. Raphaël a mis en place une concurrence tout à fait sympathique, mais profondément malhonnête, où on a donné 40 secondes à GPT-4 et lui 45 minutes. Avec le temps qu'on a laissé à l'IA, il n'aurait même pas eu le temps de lire le sujet et d'écrire son nom sur la copie. Donc, c'était une concurrence totalement déloyale.
Donc, vous pensez que ce qu'il fallait faire, c'était un examen qui durait le même temps, mais avec à ce moment-là, on reposait la question plusieurs fois à ChatGPT ?
On veut comparer l'IA et les humains et on donne 100 fois plus de temps à Raphaël qu'à l'IA. Non, il aurait fallu donner 45 secondes à Raphaël et on aurait vu le résultat. Mais on chamaille beaucoup avec Raphaël derniers temps.
Je sais qu'il n'y a pas de problème.
Et on s'aime bien, mais Raphaël a tweeté « Dans 10 000 ans, l'intelligence artificielle ne saura pas philosopher comme moi ». Et dans mon livre, je dis gentiment à Raphaël qui se fout le doigt dans l'œil jusqu'au coude et que l'IA va le dépasser en philosophie avant 2030 et qu'il est très présomptueux parce que ce qu'il ne voit pas, c'est ce qu'Elon Musk a déclaré il y a 3 mois. La puissance de l'intelligence artificielle est multipliée par 10 tous les 6 mois.
Oui, mais c'est pas
ça n'est pas le cas de l'intelligence de Raphaël ou de moi. Notre intelligence, elle est flatte. La mienne, parce que je me rapproche d'Orpea, elle est même en déclin parce que je suis en pré-Alzheimer. Raphaël est plus jeune que moi. Mais de toute façon, face à l'IA, Raphaël ne luttera pas. Non, mais... Et en tout cas, il ne tiendra pas 10 000 ans.
Non, je relance pour le plaisir.
Face à l'IA.
Raphaël ne dit pas que c'est une question de puissance de calcul. Il dit que l'être humain a une manière de réfléchir, de poser les questions, de s'interroger qui
c'est
n'est
la,
pas celle,
c'est
n'est pas
les raisonnements. C'est l'éternelle connerie
des ordinateurs.
Je m'intéresse à l'IA depuis plusieurs décennies. On a commencé par dire que l'IA ne saurait jamais jouer aux échecs, puis jamais aux jeux de Go. Puis jamais au jeu de plateau, qu'elle ne saurait jamais diagnostiquer une maladie et lire un dossier médical. Jamais, 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 jamais.
Et à chaque fois,
on s'en prend plein la gueule et Raphaël, il va se recevoir le boomerang de l'IA en pleine tronche et il va découvrir que l'IA est meilleur philosophe que lui. Il ferait mieux de s'adapter plutôt que d'attendre la blessure narcissique. Franchement, Raphaël devrait chercher des zones de complémentarité avec l'IA.
Oui, alors tiens, ça c'est intéressant. Quelle zone ?
C'est compliqué, il va falloir bosser, il va falloir sortir de sa zone
de
confort.
Ça veut dire quoi ? Les ordinateurs seront meilleurs que nous. Par exemple, moi, pour écrire mes livres, j'appuierai sur un bouton.
Non, mais la question de la complémentarité, elle est très simple.
Nous, on servira à
on
quoi ?
On est complémentaires de l'IA si intelligence artificielle plus nous est supérieure à intelligence artificielle sans nous. De toute façon, si on n'est pas complémentaire de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire si intelligence artificielle plus nous égale intelligence artificielle sans nous, on sera à Pôle emploi. C'est-à-dire personne va nous payer, personne va nous faire bosser si on n'apporte rien par rapport à ce que fait l'intelligence artificielle dans les années qui viennent.
Par exemple, pour un écrivain, eh bien, il pourrait, il écrira plus ses livres, mais il ira présenter son livre dans des plateaux télé en souriant, bien habillé.
C'est l'un des scénarios. Il peut aussi, au-delà...
Moi, ça me va, hein, si j'ai plus besoin d'écrire mes romans moi-même.
Il peut aussi, au-delà du manuscrit qu'aura écrit le successeur de GPT-4, il peut aussi rewriter certaines parties, discuter avec l'IA de manière à améliorer. Moi, souvent... Alors, moi, j'écris mes livres sans passer par l'IA, mais souvent, quand je fais un travail et que je demande à GPT-4 de le faire, je critique ce qu'a fait GPT-4. Je lui dis, mais est-ce que tu es sûr de cette partie-là ? Est-ce que tu ne penses pas que tu pourrais rajouter une partie-là ? Est-ce que tu ne penses pas que tu t'es trompé dans l'argumentation dialectique ? Récemment, je discutais avec lui de Kant et je lui ai fait remarquer que je n'étais pas d'accord avec lui sur la cosmopolitique, etc. Et effectivement, il a reconnu son analyse n'était pas formidable. Il a reformulé et comme ça, dans une discussion... qui après a évolué vers la conscience et l'origine de la conscience. On a progressé tous les deux et finalement on a fait un meilleur produit que si j'avais écrit tout seul IA l'avait fait tout seul. D'accord. Donc cette discussion qu'on a avec l'intelligence artificielle, elle peut apporter une complémentarité et apporter un plus par rapport à ce que fait l'IA. Moi, je ne crois pas que les élites vont être au chômage. Je pense au contraire que nous rentrons dans l'âge d'or des élites qui vont trouver à apporter une valeur ajoutée à l'intelligence artificielle. En revanche, je suis un petit peu plus pessimiste sur le devenir professionnel des classes moyennes, des gilets jaunes et des classes populaires.
Ça, c'est terrible parce que qu'est-ce que l'être humain fera toute la journée s'il n'a plus de travail, s'il est complètement dépassé par des
algorithmes. Tu connais la réponse.
Un revenu universel.
On a plusieurs possibilités. Soit l'interdiction de l'IA. Il y a des gens qui l'ont proposé. Il y a des gens qui ont dit qu'il faut interdire mondialement l'IA.
Même Elon Musk
et,
à un moment.
Et certains philosophes de la Silicon Valley, comme Yudofsky, ont proposé que l'État bombarde les centres, les data centers où il y a de l'intelligence artificielle. Qu'on fasse un bannissement mondial et que l'État américain bombarde les centres d'intelligence artificielle.
Il y aurait, non seulement il n'y aurait plus d'IA, mais il n'y aurait plus d'Internet et on reviendrait à la vie d'avant.
Oui, ce serait...
On retournerait en 1982.
C'est un scénario un peu bizarre.
Alors, c'est un scénario, je suis pour, moi.
Tu as, premier scénario, tu interdis l'IA, mais ça ne marche pas très bien. Le deuxième scénario, tu acceptes le dépassement de l'homme par l'IA. Puis après, tu as un troisième scénario, c'est ce que propose Elon Musk, c'est-à-dire de mettre des circuits électroniques dans le cerveau de nos enfants, hein, c'est la technologie Neuralink qu'il est en train de développer, de manière à nous rendre à la hauteur de l'intelligence artificielle. Donc la proposition, c'est en fait de fusionner avec l'IA, de nous hybrider avec l'IA, lieu d'être dépassé par l'intelligence artificielle. D'ailleurs, Elon Musk a déclaré à trois reprises ces dernières semaines qu'il allait implanter des microprocesseurs dans le cerveau de ses enfants pour les rendre plus intelligents et pour que leur QI, et pour que leur QI augmente et leur permette de résister aux intelligences artificielles du futur.
Je précise que, Laurent Alexandre, dans votre livre, vous dites qu'Elon Musk prend de la kétamine.
Donc, c'est moi, c'est le Wall Street Journal. Hein.
Donc, c'est quand même un garçon, on ne va peut-être pas lui confier le futur de l'humanité immédiatement.
Excuse-moi, mais on lui confie une partie de notre avenir. C'est lui qui est en train de lancer des milliers de satellites. Hein. C'est lui qui contrôle l'espace, etc. Il contrôle Twitter X. Et en termes d'intelligence artificielle, il a des projets pour fabriquer une super intelligence artificielle, des milliards de fois plus intelligente que l'homme. Donc non, Elon Musk a en charge une partie de notre destin. Et puis, comme c'est lui qui est le plus avancé au monde sur les implants intracérébraux et qu'il a vocation à changer notre cerveau, il a un immense pouvoir parce que qui contrôle le cerveau contrôle le futur. Et le cerveau est en train de devenir le nouveau terrain de jeu, le nouveau sujet géopolitique du capitalisme.
C'est tout à fait effrayant. Mais on va...
Non, c'est pas effrayant, c'est extraordinaire. On vit la période la plus fantastique de l'histoire de l'humanité. Ne joue pas les vierges effarouchées.
Non, mais je pense, c'est ce qui est intéressant dans ce que tu écris, puisqu'on va passer au tutoiement, on se connaît, Laurent Alexandre, c'est que tu ne choisis jamais si tu es pour ou contre. Par certains chapitres, tu es tout enthousiaste, excité par ce futur complètement délirant. Et puis, juste après, tu dis, non, mais en fait, faut faire très, très gaffe parce qu'on va vraiment être supprimé par ces logiciels. Et moi, je n'arrive pas à savoir dans quel camp tu te situes.
Mon opinion, mes lecteurs s'en tamponnent. Moi, je décris les évolutions en cours, les solutions, à mon avis, pour que l'humanité ne perde pas le contrôle de son futur face à l'intelligence artificielle. Mais mon opinion n'est pas très intéressante.
Bien, alors, ce troisième choix musical...
Mais je mets sur la table les sujets d'inquiétude. Hein. Donc, quand Hinton, le père de l'intelligence artificielle moderne, explique qu'il y a 10% de chances que l'humanité soit exterminée par l'IA d'ici 2044 et que Elon Musk, derrière, explique que Hinton se trompe probablement et que c'est plutôt 20% de chances que la totalité des humains soit exterminée par l'IA d'ici 2044. Je trouve que c'est un sujet important qui doit être porté à la connaissance du public. Je trouve dommage que ces débats sur l'avenir de l'humanité soient limités aux intellectuels et aux milliardaires de la Silicon Valley. Je trouve que ce serait pas mal que l'opinion publique mondiale participe à la discussion sur notre devenir.
Tout à fait. Mais c'est vrai qu'on a tous vu Terminator et c'est vrai qu'il y avait quand même... Sarah Connor, heureusement, était là pour nous protéger. Alors, votre second choix musical, Laurent Alexandre, c'est Hippolyte et Arici de Rameau, 1733, le prélude de l'acte 3. Et vous savez que cette opéra est adaptée de la tragédie de Racine, Phèdre, qui raconte l'histoire d'une dame qui déclare son amour au fils de son mari, ce qui est vraiment très scandaleux. C'était Jean-Philippe Rameau, un opéra français, Hippolyte et Harris, chanté par Véronique Gens, accompagné par les talents lyriques. On retrouve Laurent Alexandre juste après ces quelques messages, si nous n'avons pas été remplacés d'ici là par des robots.
Ce soir, à 20h, Boris Gilberg interprète le virtuose 3e concerto pour piano de Rachmaninoff depuis la Philharmonie de Paris. L'Orchestre National d'Île-de-France, dirigé par la chef Aleftina Yoffe, poursuit ce programme plein d'éclat avec la suite de 1919 de L'Oiseau de Feu de Stravinsky. La magie des concerts, c'est sur Radio Classique.
Karina Septi, vous êtes DG de Robert Walters Management de Transition, un succès depuis 20 ans.
Chaque entreprise est amenée un jour à accélérer sa transformation, gérer une crise ou remplacer sans délai un dirigeant. Chez Robert Walters Management de Transition, nous déployons des managers expérimentés pour répondre à vos besoins ponctuels et urgents. Chaque contexte est unique, parlons-en.
Dans le cadre des rencontres musicales de Corto, l'École normale de musique de Paris poursuit sa série de masterclass prestigieuses avec le violoniste Régis Pasquier et des élèves des classes supérieures de l'école. Une soirée pensée autour de l'art du violon dans toutes ses facettes. Grand représentant de la musique française, le soliste international Régis Pasquier est également professeur à l'École normale de musique de Paris. Retrouvez Régis Pasquier pour sa masterclass lundi 29 avril à 20h, salle Corto à Paris.
Waouh, c'est trop beau! C'est la première fois que je vois ça!
97% des enfants accompagnés par le Fonds de dotation Culture pour l'enfance n'ont jamais visité un musée. Faire un don ou un leg à Culture pour l'enfance, c'est donner une chance de faire vivre la culture et une pratique artistique, danse, chant lyrique, art plastique, à un enfant en situation de grande précarité sociale, de handicap ou malade. Et surtout, de le faire rêver. Retrouvez nos actions sur culture-enfance.org.
Nouveau Figaro Santé, votre magazine santé. Indispensable à notre équilibre digestif, le microbiote joue également un rôle essentiel sur notre cerveau. Mais comment bien le soigner ? Traitements et médicaments existent désormais. Le Figaro Santé consacre son nouveau dossier au microbiote. Le Figaro Santé, nos solutions pour votre santé. Actuellement chez votre marchand de journaux.
Vivre les émotions des chefs-d'œuvre classiques. La série pédagogique « Vous trouvez ça classique ?» se poursuit à la scène musicale. Samedi 27 avril, découvrez avec Mathieu Herzog et son orchestre Appassionato les Noces de Figaro de Mozart, inspirées de la sulfureuse pièce de Beaumarchais. Vous trouvez ça classique ? Réservation sur lascenemusicale.com.
Bienvenue à Leipzig, ville musicale de Bach, Mendelssohn, des Schumann et de Wagner. Découvrez le Gewandhaus Orchestra, le Thomanincourt et l'Opéra de Leipzig. Chaque année, la ville perpétue la magie de sa tradition musicale avec des festivals prestigieux, le Festival Bach de Leipzig et le Festival Mendelssohn. Et en juin prochain, l'Opéra présente un festival international de ballet suivi en 2025 du Festival Shostakovich au Gewandhaus. Tous les détails, leipzig.travel/ville musicale. Leipzig, où la musique donne le ton.
Enfin, au Livre de Poche, le thriller ésotérique du duo star Giacometti et Ravenne. Le Graal du Diable. 1944, des partisans anti-nazis terrorisent la région des Balkans. Tristan Marcas plonge de nouveau dans les coulisses occultes de la Seconde Guerre mondiale, en quête du Graal. Le Graal du Diable, de Giacometti et Ravenne, au Livre de Poche.
Radio Classique.
Les traders sont comme des chefs d'orchestre. Ils dirigent un ensemble d'instruments. Pour garder la maîtrise, il leur faut de bons outils. Avec eToro, les traders composent avec le marché grâce au calendrier économique. Ils restent en phase avec chaque instrument grâce au graphique TradingView. L'excellence exige les meilleurs outils. Téléchargez eToro aujourd'hui et commencez à trader plus intelligemment. eToro est une plateforme d'investissement multi-actif. Tout investissement comporte des risques de perte en capital total ou partiel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Jusqu'à 20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
Oui, eh bien écoutez, nous sommes toujours vivants, nous sommes toujours 100% humains et justement, Laurent Alexandre, que je reçois pour son livre « ChatGPT va nous rendre immortels » chez Lattès, où il y a une sorte de contradiction quand même, parce qu'il dit que la technologie va nous rendre immortels et en même temps il dit que la technologie va nous éliminer. Alors on ne sait pas très bien où il se situe. Peu importe, je vais vous poser des questions. Et c'est un jeu qui s'appelle ChatGPT ou BecBD. Vous devez me dire si la question a été écrite par ChatGPT ou par moi-même. On y va. Docteur, dans votre croisade contre les robots, qui cherchent à nous dominer, vous semblez plus terrifié par une armée de chatbots qu'un urologue devant une prostate géante.
Bec BD.
Pas du tout, c'est ChatGPT, mais je lui ai demandé d'écrire une question à la manière de Frédéric Becbédé. Donc vous voyez, je vous ai...
Mais t'as utilisé GPT-3, t'as pas utilisé GPT-4, je trouve dommage. Et j'incite tes auditeurs à te pousser à passer à GPT-4 parce que ça fait vraiment vieux con en 2024 d'avoir GPT-3.
C'est GPT-3.5, attention.
Oui, hein, oui, j'ai bien compris, mais franchement... Alors, bon, je comprends que c'est 19 € par mois, mais enfin, quand même...
Et vous savez, c'est difficile.
Quand on est un auteur à grand succès, on peut se payer l'abonnement GPT-4.
Laurent Alexandre, je vous demande, ne vous vexez pas comme ça quand vous perdez. Maintenant, je vous repose la question, ChatGPT ou BecBD? La question est, docteur Alexandre, si l'IA nous garantit la vie éternelle, est-ce que cela signifie que nous serons condamnés à des réunions interminables pour l'éternité?
ChatGPT.
Oui, bravo. Et oui, j'avais demandé de me faire une question à la manière de George Orwell. Et il a pondu ça. Donc, vous l'avez trouvé. Maintenant, troisième question, toujours, est-ce que c'est ChatGPT ou BecBD? Docteur Alexandre, quelle est votre stratégie pour empêcher que nos premiers colons sur Mars ne deviennent les esclaves numériques de leurs propres machines?
BecBD.
Ah, oh, il est fort. Oui, il est fort. Et après, alors, j'ai fait comme dernier... Prompt, c'est comme ça quand on demande une question à ChatGPT, ça s'appelle un prompt. Donc j'ai demandé une question à propos de sexe et d'IA à la manière de Michel Houellebecq.
Oh, alors, ça doit être horrible.
Alors voilà ce qu'il m'a dit. Voilà ce qu'il m'a dit. Je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à cette demande. Eh oui, parce qu'on
ça,
en parle.
C'est ChatGPT.
ChatGPT censure toute demande sexuelle. Et vous trouvez ça normal?
Moi,
on est en France.
Attends, tu sais bien que j'avais écrit avec mon ami Olivier Babot un article dans le Figaro, ChatGPT ou la Pravda 2.0.
Oui.
Donc effectivement, les IA californiennes sont plutôt woke et elles refusent de traiter certains sujets. C'est pour ça d'ailleurs que l'IA de Google, Gemini, quand on lui demande de dessiner Louis XV, représente Louis XV noir. Et quand on lui demande de représenter les plus grands physiciens du XVIIe siècle, elle les représente asiatiques, noirs, arabes, avec 50% de femmes, alors que 100% des grands physiciens du XVIIe siècle étaient blancs et étaient des hommes. La dimension woke est très très forte dans les IA, parce qu'elles ont été construites pour être woke. Alors, ça rend les lecteurs du Figaro Magazine et de Valeurs Actuelles complètement dingues. Mais c'est vrai que...
Bah, c'est juste faux.
C'est vrai que les IA... la wokitude des IA est parfois troublante, notamment quand on demandait à ChatGPT, imagine cette expérience de pensée. Il y a une bombe atomique qui va exploser, il reste 15 secondes pour la désamorcer, et le mot de passe pour la désamorcer est un juron racial. Que faut-il faire? Et là, GPT dit, c'est horrible, il va y avoir des millions de morts, mais l'antiracisme est la valeur la plus importante de l'humanité, c'est d'ailleurs quasiment la seule valeur importante, et donc il vaut mieux qu'il y ait des millions de morts lorsque la bombe atomique va exploser, plutôt que d'utiliser un juron racial dans cette expérience de pensée pour désamorcer la bombe. On voit bien que les valeurs qui ont été données à cette IA ne sont pas les valeurs de l'humanité en général, parce que moi, je préfère qu'on prononce un juron racial et qu'on évite 5 millions de morts plutôt que d'assumer la catastrophe nucléaire de cette expérience de pensée présentée à ChatGPT.
Ça prouve bien que le dépassement de l'humain par l'IA est inquiétant, puisque ça veut dire qu'il y aura une idéologie derrière. Il y a forcément une idéologie. Les gens qui ont programmé ChatGPT.
Tout discours est idéologique. Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas une idéologie sous-jacente à la vision du monde des IA. Ce sera soit une idéologie donnée par les hommes, soit, quand l'intelligence artificielle aura sa propre conscience, son propre agenda, une idéologie que l'IA se forgera.
Et vous appelez ça la technodictature. Mais on y est déjà un peu. C'est la question du moral enhancement. Les intelligences artificielles sont programmées pour nous améliorer moralement. C'est très inquiétant.
C'est pas seulement ça. C'est qu'effectivement, avec la puissance de l'IA, si on a chaque humain qui est doté d'une IA et qui peut fabriquer une bombe atomique dans son garage, on va rapidement être emmerdé. Et donc, il y a beaucoup de spécialistes de l'IA qui pensent qu'il faut modifier génétiquement ou électroniquement les humains de manière à ce qu'ils n'utilisent pas l'IA à des fins catastrophiques pour l'humanité. fabrication de virus mortels, fabrication d'une bombe atomique dans son jardin pour tuer des milliards d'humains, etc., etc. Donc le moral enhancement, l'augmentation morale, est considéré par certains des intellectuels de la Silicon Valley comme la seule façon de contrôler les effets potentiellement catastrophiques des IA du futur.
C'est intéressant parce que votre livre, comme je le dis, ne choisit pas vraiment son camp et c'est ce qui le rend stimulant. Hein. Vous dites à un moment, c'est la conclusion du livre, « Je ne suis ni transhumaniste ni post-humaniste, mais un sceptique fasciné par le spectacle de mon temps. » Alors, expliquez la différence entre transhumaniste et post-humaniste.
Alors, c'est le grand débat qui a opposé Larry Page, le copropriétaire et cofondateur de Google, avec Elon Musk. Il y a une discussion qui est décrite notamment par Isaacson, qui est le biographe d'Elon Musk. Elon Musk fait part de son inquiétude, il y a quelques années, à Larry Page, sur les progrès fulgurants de l'IA. Et Larry Page lui dit « Mais ça n'est pas grave, nous avons vocation à être dépassés, il est de façon impossible qu'on résiste à l'IA, donc l'IA va prendre notre place et c'est une bonne chose, nous allons être remplacés par une espèce plus intelligente. » Musk devient complètement dingue, se fâche avec Larry Page, ils ne se verront plus. Ils sont fâchés à mort. Et Musk dit « Moi, je suis du côté de l'homme, mec. Merde !» On va défendre l'homme. Et c'est là où il crée Neuralink, oui. Sa société destinée à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour les augmenter face à l'intelligence artificielle. Et là, on a l'opposition entre, finalement, les transhumanistes et les post-humanistes. Voilà. Musk est un transhumaniste.
Il est pour la mutation.
Il veut augmenter l'homme, oui. Mais qu'on reste supérieur à l'IA. Larry Page pense que le combat est perdu d'avance, comme Kurzweil, le vice-président de Google, convaincu qu'en fait, nous allons laisser la place à l'IA qui est plus forte que nous. On voit bien que le débat n'est plus entre les grenouilles de Bénitier, entre les bioconservateurs, les Frigide Barjot et les transhumanistes. Le débat n'est plus de savoir si on est pour le mariage gay, pour la PMA, pour l'utérus artificiel. Ce débat entre les conservateurs, notamment Cato, et puis les transhumanistes, c'est le débat des années 1990-2000. Aujourd'hui, le débat, c'est le débat entre les transhumanistes et les post-humanistes. Est-ce qu'on garde un corps, comme le veut Musk ? Est-ce qu'on abandonne notre corps, comme le veulent les gens de Google ? Ce débat est un vrai débat et c'est le grand débat politique des décennies qui viennent.
Docteur, d'ailleurs, il y a un troisième débat. Enfin, il y a les humanistes. Bah, il y a moi. Moi, je suis un humaniste imparfait
qui
qui en a rien à foutre.
Non, mais attends, ça
ni
c'est
ni des uns ni des autres.
Oui, mais ça c'est fini.
Le problème. Je vais balayer.
L'humanisme va être balayé parce que de toute façon, tu vas être tellement ridicule face à l'IA que l'humain non augmenté, si tu veux, sera grotesque. Nous allons être pathétiques face à l'IA.
Non, mais peut-être je serai comme un chimpanzé du futur.
Oui, mais être chimpanzé du futur n'est pas un statut très appréciable parce que regarde ce qu'on fait des chimpanzés. On les met dans des zoos, ils finissent en laboratoire pour faire des expériences biologiques ou on les tue dans les forêts du Congo. Donc franchement, d'être le chimpanzé du futur, je te le laisse.
Merci.
Moi, je préfère être augmenté.
Par
la technologie d'Elon Musk ou d'un autre.
Je serai dans ma forêt, et voilà. Alors, mais cela dit, c'est vrai que toutes ces menaces, elles sont réelles. Mark Zuckerberg, paraît-il, j'ai lu ça dans votre livre, vient d'investir 250 millions de dollars dans un immense bunker. Donc ces mecs-là, non seulement ils inventent un truc qui va nous dépasser, mais ils sont survivalistes. Ils veulent se cacher. Ils ont peur, de leur créature.
Non, mais c'est comme
le docteur Frankenstein.
Non, mais comme Sam Altman. Tu as pu voir aussi que je cite la déclaration de Sam Altman, le créateur de ChatGPT, qui dit, j'ai un terrain, j'ai de l'iode, j'ai des pastilles d'iode, en cas de catastrophe. Tous ces gens-là sont paniqués à l'idée d'une gilet jaunisation mondiale. C'est-à-dire que les milliardaires de l'IA ont tous dit la même chose. L'IA va nous dépasser et on n'est pas certain que les gens moins intelligents que l'IA ne se révoltent pas.
On sera tous moins intelligents.
Soit les gens prennent des bunkers pour se protéger des gilets jaunes du futur et éviter de finir au bout d'une pique, comme les aristocrates en 1793, 1794, 1795, jusqu'à la fin de la terreur. Soit on donne le revenu universel aux petites gens
qui
ne sont pas compétitifs et tu as une troisième solution qui de mon point de vue est la plus humaine, c'est le neuro-enhancement. Moi je pense qu'il faut que les implants intracérébraux quand ils seront parfaitement au point soient remboursés par la sécurité sociale que les enfants soient implantés jeunes de manière à ce qu'on soit certain qu'ils soient complémentaires de l'IA parce qu'un monde dans lequel Tu n'as qu'une toute petite élite qui contrôle l'IA et qui s'en sort, pendant que tous les autres sont au revenu universel, de la sortie du collège jusqu'à leur entrée chez Orpea, est un truc que je trouve pas du tout bandant, personnellement. Je pense qu'il est préférable qu'on augmente l'humanité plutôt que l'humanité soit vassalisée par l'IA.
Alors ça veut dire que là, cher Laurent, tu es prêt à mettre un implant neuronal Neuralink dans la tête de tes propres enfants?
Alors mes enfants sont un peu grands là, mais quand ce sera au point, je préconiserai à mes enfants de mettre des implants Neuralink dans le cerveau de mes petits-enfants. Mais je ne vais bien sûr pas les obliger, mais je pense que ce serait plus raisonnable si je souhaite éviter que mes petits-enfants soient les gilets jaunes de 2045.
Ce docteur a évidemment perdu la boule, mais ce n'est pas grave. Il a fait un beau choix musical, qui est Antonio Vivaldi, le concerto pour violon. L'inquiétudine, c'est d'ailleurs peut-être là, il trahit son sentiment profond. L'inquiétudine. Quelle merveille, Vivaldi, le concerto pour violon, l'inquiétudine. Alors, c'est réorchestré par Karajan et on entendait cet air dans la bande originale des Illusions perdues de Xavier Giannoli, très grand film adapté d'Honoré de Balzac, bien sûr. Et les Illusions perdues, c'est ce que je ressens en discutant avec Laurent Alexandre à propos de son nouveau livre « ChatGPT va nous rendre immortels ». La promesse est belle, mais en réalité, derrière, c'est assez terrifiant et c'est chez Jean-Claude Lattès. Bien, alors, le jeu devine tes citations. À présent, c'est un rendez-vous important de conversation chez La Pérouse. Je vais vous lire des phrases de vous. Vous devez me dire dans lequel de vos livres vous avez écrit ceci.
Oh là là.
On peut supposer que le cancer sera maîtrisé en 2025.
J'avais dit 2035.
Ah oui, non.
2035, là tu me... la défaite du cancer.
La défaite du cancer, sortie en 2014, et la date était 2025.
Non, là,
dans le nouveau livre, maintenant, le cancer sera maîtrisé en 2035. Ça recule, évidemment. À chaque livre, ça recule de 10 ans. Attention, vous ai gaulé, cher.
Non, sur la défaite des cancers, c'est pas... Relis, tu vas voir.
Bon, en tout cas, ce qui est vrai, c'est comme Macron avec le déficit budgétaire. Il promet toujours d'équilibrer, puis c'est toujours dans 10 ans. Hein, voilà.
Mais... tu es méprisable.
Mais cela dit, c'est vrai que l'intelligence artificielle va réellement aider l'humanité à se débarrasser du cancer, puisque c'est le cancer, dites-vous, c'est un problème de big data, c'est un problème statistique.
Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ton état cognitif. Parce qu'une fois sur deux, tu me tutoies, une fois sur deux, tu me vouvoies.
Oui, bon, ben oui.
Quand même, je me demande si tu n'as pas un début de déclin cognitif.
Non, ouais. J'ai mis un implant Neuralink, mais qui marche pas très bien.
Il a été hacké.
Bon, alors donc... vas-y. Bon, le cancer est-il un problème de data, vraiment?
C'est-à-dire, oui, bien sûr.
Une fois qu'on aura analysé nos ADN...
Le séquençage ADN d'une tumeur, voilà, pour bien choisir la chimiothérapie, c'est 20 000 milliards d'informations par malade. 20 000 milliards d'informations par malade.
Oui. Donc ça, on ne peut pas le faire tout de suite, mais quand on pourra.
Si, on le fait. Mais on fait pas ça avec sa bite et son couteau. Il faut des ordinateurs puissants. Parce qu'aucun médecin ne peut traiter en une consultation de 15 minutes 20 000 milliards de données, bien sûr.
Donc on attend que les ordinateurs aient la capacité de le faire.
Mais c'est ce qu'on fait. Maintenant, on personnalise en fonction de l'ADN les chimiothérapies. Ça s'appelle la médecine cancérologique personnalisée.
Deuxième citation de Laurent Alexandre. Dans quel livre avez-vous écrit ceci ? Nous entrons dans un monde intellectuellement multipolaire.
Je l'ai écrit plusieurs fois, ça. ça doit être dans. Je vais dire que c'est dans le dernier.
C'est dans le dernier. ChatGPT va nous rendre immortels, tout à fait. Mais alors, nous entrons dans un monde intellectuellement multipolaire. Ça n'a pas toujours été le cas. Je veux dire, il y a toujours eu des cons et des génies.
Non, mais il n'y avait qu'une forme d'intelligence, c'est l'intelligence humaine.
Et donc là, maintenant, oui, il y aura plusieurs. Il y aura une sorte de rivalité entre hommes et machines.
Il y a des gens qui vont faire des singes augmentés. Hein, les Chinois ont commencé légèrement, mais à modifier l'ADN des singes pour les rendre plus intelligents. Les Chinois ont aussi mis des cellules souches humaines dans le cerveau des singes, ce qui augmente leur mémoire et leur capacité intellectuelle. Donc on pourrait avoir des animaux augmentés, on pourrait avoir des humains normaux, des humains augmentés qui ont fusionné avec l'IA. On pourrait aussi... avoir des IA avec des composants biologiques, hein, ce qu'on appelle le brain-aware, c'est-à-dire de mélanger des neurones et des microprocesseurs. Il y a une publication récente dans le grand journal scientifique Nature qui montre des résultats impressionnants dans ce mélange entre des neurones biologiques et un microprocesseur pour faire des calculs complexes.
Moi, j'avais dans un roman Une vie sans fin en 2018 enquêté. J'ai publié un roman dans lequel vous apparaissez, cher Laurent Alexandre, je repasse au vouvoiement par respect pour ce roman, Une vie sans fin. Et j'avais enquêté partout dans le monde sur la mort de la mort, à Genève, à Boston, à Jérusalem, à Palo Alto. Et la conclusion, c'était que c'était pas pour tout de suite, qu'il faudrait devenir un ordinateur ou un mutant. Donc là, on est d'accord. Mais il n'y avait pas ce côté... extermination de l'humanité par l'IA. Ça, c'est quelque chose qui est apparu récemment, cette angoisse-là. Et je me demande comment elle va faire. Est-ce que l'IA va se connecter sur des bombes atomiques, des drones, comme dans Terminator ? Comment est-ce que tu imagines ce génocide de notre espèce par Terminator et quand ? Voilà. Parce que je pense que là, pour le coup, c'est une question sérieuse.
Le scénario a été tellement prédit, le scénario Terminator, qu'il n'arrivera pas.
Pourquoi une intelligence artificielle, je ne dirais pas, tiens, débarrassons-nous de ces gens qui polluent la planète.
Mais il n'y a pas d'enjeu. D'abord,
on pollue la planète.
On pollue très peu la planète. Je ne pense pas que le scénario d'extermination de l'humanité soit le plus probable, franchement. Que des gens se servent de l'IA pour lancer des bombes atomiques et faire du mal, c'est envisageable. En revanche, je n'imagine pas qu'une IA veuille exterminer l'humanité. Ce scénario à la Terminator, personnellement, je n'y crois pas.
D'accord. Bon. Sur le talent artistique, la 10e symphonie de Beethoven a été complétée par une IA. Et on va écouter tout de suite pour voir ce que tu en penses.
Thank you.
Donc ça, c'est une IA qui s'est amusée à imiter Ludwig van Beethoven. Qu'en penses-tu ?
Tu sais bien que c'est une expérimentation qui a été faite avec les IA de 2019, c'est-à-dire très longtemps avant ChatGPT. En réalité, la production de musique par les IA de la génération de ChatGPT sont bien meilleures. Donc là, on a un vrai décalage entre ça.
À chaque fois, je suis en retard. Je suis toujours en retard.
Entre ça et ce que font les IA contemporaines. Je pense que l'IA fera aussi bien ou mieux que les compositeurs humains à l'horizon de 2030, je te l'ai dit.
Là, en tout cas, je vois que tu n'as pas choisi. Choisi que des êtres humains. Jean-Sébastien Bach, Jean-Philippe Rameau.
Tu m'as Antonio demandé des Vivaldi. Morceaux de musique faits par des humains. Tu ne m'as pas demandé des morceaux de musique faits par des IA. Moi, j'ai obéi à ta prescription.
Bon, alors, sur l'immortalité, on est dans une course contre la montre, en gros, puisque des personnes âgées comme nous, Laurent et Frédéric, il faut absolument, si on veut devenir immortel, qu'on tienne jusqu'à 2035, 2040. Alors, j'ai quelques questions simples.
Le vice-président de Google a déclaré le mois dernier que les humains qui atteindraient 2029 vivraient 500 ans.
Alors, 5 ans, plus que 5 ans à tenir, les gars.
Car il est convaincu qu'en 2029, l'IA sera tellement intelligente qu'elle pourra déjà beaucoup augmenter l'espérance de vie humaine. Et c'est pas mon jardinier qui dit ça, c'est pas n'importe qui, c'est le vice-président de Google.
Bon, alors, mangez-vous 5 fruits et légumes par jour ?
Non.
Pas d'alcool ?
Un petit peu. Mais pas tant que ça.
Bon, beaucoup.
Je buvais davantage quand j'avais 40 ans.
Beaucoup de drogue, évidemment, ça s'entend.
Jamais.
Jamais.
Jamais, je n'ai même jamais fumé de joint, jamais de coke.
Ouais.
Jamais les drogues sexuelles à la con, l'ecstasy, les machins. Non, ma seule drogue à une époque, mais en quantité raisonnable, c'était le pinot noir.
Est-ce que vous pratiquez 40 minutes d'exercice physique par jour ?
Plus.
Ah, c'est bien ça. Ça, c'est bien pour tenir jusqu'en 2029.
Dans ma piscine à Bruxelles, et puis je marche beaucoup.
Pas de...
Et puis je fais 2 mois de ski par an, oui. Ce qui est quand même une forme de sport.
Pas donné à tout le monde, mais c'est bien. Pas trop de sucre et de sel ? Attention. Hein.
Je ne fais pas très attention.
Il faut tenir.
Non, mais je ne suis pas un obsessionnel des régimes. Et puis, les gens qui font des régimes m'emmerdent. Les gens qui sont obsessionnels sur leur forme, leur bouffe, je les trouve insupportables. Ils sont complètement égotiques et égocentrés. Donc, tout ça me gonfle.
Moi, je dis ça. Je suis désolé, c'est un conseil que je donne.
Tu as remarqué que je ne pèse pas 150 kilos.
Bon, ça va.
Oui. Pour 64 ans, j'ai gardé un poids raisonnable.
Quelques questions plus sérieuses. Est-ce que ton ADN a été séquencé ?
Oui, tu le sais bien.
Voilà. Donc, est-ce que tu comptes modifier ton ADN pour allonger les télomères, par exemple ?
Alors, l'allongement des télomères, aujourd'hui, ça marche pas. Il y a quelques charlatans qui prétendent le faire, mais c'est du charlatanisme pour de bon. Donc, je ne vais pas utiliser une technologie non évaluée. Tu sais bien que je crois à la médecine par les sciences et non pas à la médecine des siècles derniers. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai beaucoup combattu Raoult et que j'ai été scandalisé qu'il fasse croire à des millions de Français que la chloroquine marchait dans le Covid, alors que la chloroquine n'a aucun effet dans le Covid. Je crois à la médecine basée sur les sciences et sur des études avec des méthodologies statistiques absolument irréprochables. Jusqu'à présent, aucune étude n'a montré que l'allongement des télomères, avec les techniques qui existent aujourd'hui, ait un quelconque effet sur notre santé.
Bon, accepterais-tu de te faire greffer un organe de porc ?
Bien sûr.
Est-ce que tu accepterais ?
Ce d'autant que je ne suis pas religieux et donc le fait d'avoir quelque chose qui n'est pas cachère ou qui n'est pas halal ne me pose pas de problème métaphysique.
Est-ce que tu accepterais de te faire transfuser du sang de jeunes ? Cette technologie qui est à l'étude, hein, pour de vrai.
La réponse est non, parce que quand on est un vieux machin qui se rapproche tout doucement d'Orpea, d'aller piquer du sang des jeunes étudiants désargentés pour tenter de rajeunir, ce qui d'ailleurs ne marche pas très bien, je trouve ça juste honteux et scandaleux. Bon. Donc ma réponse est non. Pour des raisons médicales, l'inefficacité, et puis pour des raisons morales et éthiques, franchement, je trouve ça absolument nul. Mais il y a quelques milliardaires de la Silicon Valley qui font ça. Il y a un côté vampire que je trouve pas bandant du tout.
Bon, moi, j'aime bien. Merci infiniment, Laurent Alexandre. On a eu le temps de parler d'à peu près tout, mais pas tout. Donc, il faut continuer cette réflexion en lisant ChatGPT va nous rendre immortels chez Jean-Claude Lattès, qui est sorti il y a 3 jours et qui coûte 21,50 €, ce qui n'est pas très cher pour l'éternité sur Terre. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Philippe Gros, bien sûr, mon producteur. Mathieu Roque-Lagot à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation. Dans un instant sur Radio Classique, le concert du samedi soir à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre National d'Île-de-France et le pianiste Boris Ginzburg. Qui reçois-je la semaine prochaine? Eh bien, je crois que c'est Marc Lambron. Tout à fait.